pour compléter ce que je vous ai dit tout à l'heure, le mot abstraction. Il faut faire attention, parce que en réalité, ça correspond à la vie de notre intelligence, où nous avons deux opérations intellectuelles qu'il faut bien distinguer, l'appréhension et le jugement. L'abstraction universelle permet l'appréhension. L'abstraction formelle se réalise toujours grâce à la séparation, c'est-à-dire au jugement. Dans l'abstraction formelle, dans l'abstraction universelle, il n'y a pas de jugement. Vous connaissez la quiddité des choses, les définitions, pas de jugement. Le jugement présuppose toujours le point de vue de l'abstraction formelle ou la séparation. Parce que, en métaphysique, l'abstraction formelle se fait par la séparation. C'est le jugement qui intervient en mathématiques comme en métaphysique. C'est pour ça qu'on a conscience de l'abstraction formelle. J'ai conscience de faire des mathématiques. J'ai conscience de faire de la métaphysique. J'ai conscience de faire telle ou telle science. Et si quelqu'un vient me dire, vous faites là quelque chose qui est... Ah, pardon, la science mathématique peut me permettre ça. La science métaphysique peut me permettre ça. Il y a toujours le jugement dans l'abstraction formelle. Et c'est pour ça que cette abstraction formelle, d'une certaine manière, est un dépassement de l'abstraction. Ça se fait par le jugement. Séparation de ce qui est en puissance, de ce qui est en acte. Et c'est pour ça que l'abstraction formelle revient à la réalité. Dans l'abstraction formelle métaphysique, je ne quitte jamais le jugement d'existence. En métaphysique, je suis toujours en acte avec le jugement d'existence. Ceci est. La métaphysique n'est pas une métaphysique des possibles. Elle est une métaphysique de ce qui est. Et ça, c'est très important. Et pour être une métaphysique de ce qui est, elle implique donc tout le temps le jugement. Quand je dis ceci est, je jure. Et dans l'abstraction métaphysique, c'est plus une séparation de l'acte par rapport à la puissance. Dans l'abstraction universelle, je suis toujours à saisir quelque chose qui n'existe pas. L'homme, comme homme, n'existe pas. Il existe tel homme, telle femme. L'homme comme tel n'existe pas. Dans l'abstraction formelle, métaphysique, le jugement d'existence est toujours présent. Et dans l'abstraction formelle mathématique, je sais que je suis en mathématiques. Le mathématicien a toujours conscience qu'il est dans l'abstraction métaphysique, mathématique. Et c'est la très grosse différence. L'abstraction universelle, vous n'avez pas conscience. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous rappeler quand vous avez fait un premier acte d'abstraction formelle, universelle. Quand vous êtes arrivé à distinguer papa et homme. C'est naturel. Quand vous apprenez une langue, vous êtes tout le temps à distinguer les deux. Vous voyez, l'abstraction universelle et fondamentale, elle présuppose, elle permet la découverte scientifique. Elle est une condition sine qua non de la découverte scientifique. Elle est une découverte du langage. L'abstraction formelle implique le jugement. Donc, elle est consciente. J'ai conscience de faire des mathématiques. J'ai conscience d'être en métaphysique. Et j'ai conscience de la différence entre l'abstraction mathématique qui demeure dans le divisible et la recherche de l'être mathématique. Je vais rechercher pendant des journées et des heures entières avec le père Gérard Delaurier, qui est un vieux matheux, et qui en même temps faisait de la métaphysique, quel était l'être saisi par le mathématicien. L'être mathématique, il est fait par l'esprit. Il n'existe pas dans la réalité, l'être mathématique. C'est l'intelligence humaine qui fait l'être mathématique. L'être mathématique est séparé du sensible propre, mais demeure toujours dans l'aspect divisible. La quantité. Donc il y a un passage des qualités sensibles à la quantité et demeure toujours dans la quantité. L'abstraction métaphysique revient toujours au jugement d'existence. Ceci est. La métaphysique ne quitte pas le jugement d'existence. Ceci est. Ça doit aider beaucoup à saisir la différence entre les mathématiques et le point de vue métaphysique. Alors, seconde question. Pourquoi, lorsque nous ne regardons plus que la personne, oubliant un peu la nature, la compréhension de la personne se réalise-t-elle à tel ou tel mode, se ramène-t-elle à tel ou tel mode? Question délicate. Lorsque nous regardons plus que la personne, oubliant un peu la nature, puis-je saisir la personne sans la nature? La nature, je la saisis comme principe du mouvement. C'est ça la nature, principe du mouvement. Toutes les réalités que j'expérimente, que j'expérimente directement, sont naturelles et impliquent donc toujours un principe nature. La personne, elle se découvre lorsque j'ai conscience de poser un acte qui est, dont je suis personnellement l'auteur. Donc, j'ai conscience que cet acte est posé librement ou nécessairement. On me contraint de poser cet acte. Et donc cet acte n'est pas entièrement libre. Tout acte personnel est libre. Tout acte naturel n'est pas nécessairement libre. Alors, la distinction entre nature et personne se fait au niveau des principes. La nature est principe de mouvement, la personne est principe d'un acte responsable, dont l'homme est responsable. Tout acte personnel est responsable. Tandis que tout acte naturel n'est pas responsable, n'est pas nécessairement responsable. Autrement dit, l'acte personnel sera toujours, impliquera toujours le point de vue de la finalité. Une finalité que j'accepte ou une finalité que je refuse. Tandis que le point de vue de la nature demeure dans la cause formelle. La cause formelle me permet d'atteindre la nature, ce qui est principe. La cause finale me permet d'atteindre la responsabilité que j'ai dans mes activités. Et ça touche la personne. C'est par rapport aux diverses causalités qui sont engagées que je distingue le mieux le point de vue de la personne du point de vue de la nature. Donc, comme la causalité finale que j'atteins dans mes actes personnels, implique toujours la causalité formelle, tout acte personnel implique un acte naturel. La personne est un dépassement de la nature. Je dis bien un dépassement de la nature. Où se fait ce dépassement ? Il se fait par la causalité finale. Dès que je n'ai plus de causalité finale possible, que je suis prisonnier et que je ne suis plus libre, au fond, qu'est-ce qu'il me reste ? Les activités naturelles. Un prisonnier, qu'est-ce qu'il lui reste comme activité humaine ? Toutes les activités naturelles. L'activité de choix qui implique un dépassement au point de vue de la nature, c'est une activité personnelle. Je suis libre. La liberté n'apparaît qu'avec la personne. La liberté n'apparaît pas avec la nature. La nature pose des actes naturels qui ne sont pas nécessairement libres. Ils peuvent être libres, mais ils ne sont pas nécessairement. C'est pour ça que je peux dire que tout acte personnel implique un acte naturel. Tout acte naturel n'implique pas nécessairement un acte personnel. Vous voyez, la compréhension de l'acte personnel implique la nature. vous ne pouvez pas avoir un acte personnel qui ne soit pas naturel. Acte personnel est naturel. Il est naturel quant à l'esprit. Il n'est pas naturel quant au corps. Mais nature n'est pas seulement le corps. Ma nature implique aussi l'esprit. Il m'est naturel d'être spirituel. C'est propre de l'homme d'être naturellement spirituel. Tandis que le propre de l'animal, c'est de ne pas être naturellement spirituel. Il n'a pas l'esprit. Il n'a pas l'âme. L'âme spirituelle. Et c'est pour ça que c'est assez délicat. Ce n'est pas ceci est, est personnel, ceci est naturel. Non. C'est beaucoup plus lié. Tout acte personnel est naturel pour l'homme. Tout acte personnel est naturel. Alors, il peut être surnaturel, dans l'ordre justement surnaturel. Alors de la grâce. La grâce dépasse la nature. Ah, je ne dis pas que la grâce dépasse les personnes. Mais que la grâce me fait faire des gestes et des actes qui ne sont pas naturels, mais qui peuvent être personnels. Alors, c'est avec l'ordre surnaturel que j'ai la personne qui se développe au-delà de la nature. J'ai une source, la grâce, qui, elle, est surnaturelle. C'est la grâce qui est source de ces actes-là, et qui sont des actes qui ne sont plus naturels, qui sont surnaturels. Tandis que quand je suis au point de vue philosophique, je ne parle pas de la grâce. Je ne fais aucune allusion à la grâce. Je sais qu'elle existe, mais je ne m'appuie pas sur elle dans mes expériences, qui peuvent être des expériences surnaturelles. Je m'appuie uniquement sur les expériences naturelles. J'ai conscience de poser un acte surnaturel ou de poser un acte naturel. J'ai conscience de ça. Je suis capable de distinguer les deux. Je suis capable de distinguer dans ma vie ce qui est naturel et de ce qui est surnaturel. Celui qui ne fait plus la distinction entre naturel et surnaturel ne vit plus du surnaturel. Quelqu'un qui ne sait pas ce que représente la nature, prenez quelqu'un qui dit Dieu n'existe pas et qui ne veut pas du surnaturel. Donc il ramène tout au naturel. Et le surnaturel, pour lui, est imaginaire, n'est pas réel. Est imaginaire en raison de la formation qu'on a reçue, en raison de l'âge de l'humanité. Le surnaturel était admis au Moyen-Âge, comme pour cela était admis au Moyen-Âge comme une donnée naturelle. Il y avait l'Église. L'Église faisait partie de ma vie, comme ma maison. C'était la maison de tout le peuple. Mais on n'acceptera pas que le surnaturel est un domaine qui se développe et qui peut se développer. Le surnaturel est quelque chose d'ajouté à la nature qui demande de disparaître dans la mesure où la nature se développe. C'est la conception de beaucoup aujourd'hui par rapport à la grâce. Ils considèrent que la grâce existait au Moyen-Âge, qu'elle était nécessaire au Moyen-Âge, parce que l'homme n'était pas assez évolué. Mais quand l'homme est plus évolué, il n'a plus besoin du surnaturel. Le naturel suffit. Et ça, c'est la grande conception qu'on retrouve chez tous les positivistes. La grande conception de beaucoup d'incroyants. C'est que le surnaturel est quelque chose d'ajouté, d'enfantin. Exactement comme je distingue des actes d'enfant des actes d'homme mûr. Chez un enfant, c'est tolérable, certaines activités. Ces activités d'enfant ne sont plus tolérables chez un homme adulte. Alors, on confond à ce moment-là nature et mode de nature. La nature humaine a des périodes différentes. Alors, ce qui est vrai pour l'éducation individuelle devient vrai pour l'éducation collective. À l'homme d'avoir ce développement qui s'est fait inconscient et que notre conscience s'est développée petit à petit auprès de personnes conscientes, nos parents, nos frères aînés. Ce qui est vrai pour la nature humaine devient vrai pour la collectivité. La collectivité à son âge d'enfant et la collectivité à son âge d'homme mûr. Oui, alors, c'est la vieille erreur platonicienne que l'individu et la communauté ont le même développement. Que de fait, non. L'individu n'a pas le même développement que la collectivité. Il y a une différence entre les deux. C'est que l'individu implique une substance, un être personnel. La collectivité n'implique pas une personne. C'est une erreur très radicale et très foncière, celle-là. On tombe très facilement dedans quand on n'est pas suffisamment lucide. Et on projette ce qui est vrai pour un développement naturel, on le développe pour un développement collectif. Ne voyons pas que le développement de l'individu personnel n'est pas le même que le développement de la société. Donc, alors, je reviens sur la question. Lorsque nous regardons plus que la personne, oubliant un peu la nature, la compréhension de la puissance ne se réduit-elle pas à tel ou tel mort ? La compréhension de la personne, pardon. Quand j'oublie la nature en regardant que le point de vue personnel, c'est le point de vue de de Descartes. Je ne regarde que la personne. C'est la personne qui est le point de départ de la métaphysique. Et non pas la nature. Donc, cela veut dire que je n'existe parfaitement qu'au niveau personne. C'est-à-dire que la causalité finale prend tout. Il n'y a plus de causalité formelle qui définit la nature. Il n'y a plus que la causalité finale. Alors, lorsque la personne, oubliant un peu la nature, la compréhension de la personne ne se réduit-elle pas à tel ou tel mode? Autrement dit, la distinction raison-mode, cette distinction ne peut plus se faire si je confonds nature et personne. Et si je ramène tout à la personne, c'est vrai, puisque la nature, principe du mouvement, bon, la nature, elle existe, nature physique, nature spirituelle. La nature spirituelle, c'est la personne. Et la personne implique une nature. La différence, elle se fait dans l'activité elle-même, une activité dont je suis responsable, une activité dont je ne suis pas responsable. Une activité dont je suis responsable, c'est une activité volontaire, personnelle. Une activité dont je ne suis pas responsable, c'est une activité qui n'est pas volontaire. Quand vous dormez, est-ce que le sommeil est une activité personnelle? Est-ce que le sommeil est une activité naturelle? Même si vous êtes un homme, vous devez dormir. Et quand vous dormez, vous acceptez d'être nature. Vous n'êtes plus responsable. Vous n'êtes pas responsable de ce que vous faites en dormant. C'est curieux. C'est la nature, à ce moment-là, qui reprend tous ses droits. Le sommeil est naturel. Le sommeil n'est pas personnel. Vous n'allez pas regarder une personne qui dort pour dire « Oh, quelle personne merveilleuse !» Vous pourrez dire « Je n'ai jamais rencontré une personne qui se reposait avec tant de calme. » Et ça dépend de sa personne, c'est vrai. Donc la personne se retrouve même dans le sommeil. Mais ce n'est pas l'expérience type. Je ne connais pas mieux une personne si je ne l'ai pas vue dormir. Le sommeil ne me fait pas connaître la personne. Tandis que je peux dire, c'était ce père maître qui n'acceptait jamais, ça m'a été dit quand j'étais père maître, parce que j'ai contacté pas mal de père maîtres à ce moment-là. Et là, un père maître m'a dit, un vieux père maître, m'a dit, je n'ai jamais accepté un novice sans l'avoir invité au repas de midi, je le mettais dans la table du milieu, juste en face, et je le voyais manger. Et en le voyant manger, j'étais d'accord qu'il entre ou qu'il ne m'entre pas. Ça m'est resté. Je n'ai pas fait ça. Et je vois très bien ce qu'il vous dit. C'est que la manière de manger est naturelle. Vous ne mangez pas comme un petit mouton. Vous ne mangez pas comme une grosse vache. Mais il y a des gens qui mangent comme des grosses vaches. Parce que la personne n'a pas entièrement saisi la nature. C'est très vrai que, voyez, voir quelqu'un manger révèle beaucoup de choses. Mais aller jusqu'à dire que ça permet de comprendre la vocation, ça c'est un petit peu exagéré. Parce que ça, ça relève de l'éducation. La manière de manger, ça relève d'une civilisation. Nous ne mangeons pas comme au Moyen-Âge. Se servir du couteau, de sa fourchette, tout ça, ça fait partie de la civilisation, ça. Alors qu'avant ça, il y avait la main. Est-ce que c'était moins distingué de se servir de sa main? Non. Mais l'usage a fait qu'on se sert de son couteau, de sa fourchette. N'allez pas vous mettre à manger avec vos mains en laissant de côté. Si vous faites, vous êtes invité à la table de quelqu'un. Et vous, allez, exprès, vous mettez à manger sans vous servir du couteau, sans vous servir de la cuillère, sans vous servir. Vous êtes sûr, il y aura une réflexion. Ils ont fait, tiens, d'où sort-il? Vous voyez, alors là, il faut donc distinguer la nature, l'éducation et la personne. Alors, l'éducation, ça fait partie de la civilisation, la culture. On est éduqué dans un monde culturel comme ça. Et on a des habitudes qui dépendent de notre culture, qui ne dépendent pas de notre nature, qui ne dépendent pas de notre personne. La culture, c'est quelque chose qui s'ajoute. C'est quelque chose qui peut changer. C'est quelque chose qui se modifie. La nature ne se modifie pas du tout comme la culture. Vous voyez, c'est très important pour bien distinguer le point de vue naturel et le point de vue éducatif et le point de vue politique. Mais ça, c'est là des distinctions qui viennent ensuite quand il s'agit justement de l'éthique. Je distingue le point de vue éthique du point de vue artistique. L'éducation relève de l'art. Bien sûr, c'est quelque chose qui vient s'ajouter à la nature. Ça s'ajoute à la nature pour permettre à la nature d'être plus elle-même et d'être plus raffinée, de découvrir plus tout ce qu'elle possède. Mais c'est quelque chose qui s'ajoute. Donc je ne peux pas discerner le tempérament véritable de quelqu'un uniquement en le regardant manger. en regardant manger quelqu'un, je vois la culture qu'il a, ce qu'il a reçu comme culture, c'est sûr. Nous mangeons tous en dépendant de l'éducation qu'on a reçue. Donc ça relève de l'éducation. Ça relève pas de la nature, ça relève pas de la personne. Donc, il y a une nouvelle distinction qu'il faut faire quand je veux discerner les qualités de quelqu'un. Discerner ses qualités naturelles, ses qualités personnelles, ses qualités d'éducation. C'est différent. Vous voyez ? Et au fond, ça se fait. C'est très important, ça. C'est la distinction entre l'éthique et l'art. L'éducation est artistique. Hein. C'est quelque chose qui vient s'ajouter à la nature et qui vient permettre à la nature de pouvoir donner tout ce qu'elle possède. Mais ce n'est pas la nature. Et ce n'est pas la personne. Mais seule une personne est éducable. La nature est éducable par la personne, pas directement. Ça, c'est très important. Parce que l'éducation est d'ordre artistique et l'art dépend de la finalité de la personne. Alors, l'éducation s'enracine dans la nature, c'est sûr. Mais elle est quelque chose qui vient s'ajouter. Donc, c'est source constante de confusion entre nature et personne. L'éducation. L'éducation relève-t-elle de la personne ou relève-t-elle de la nature ? C'est intéressant de savoir ça. Alors, attention, l'éducation relève de l'art. L'art. Qu'est-ce qui peut être transformé par l'art ? La nature ou la personne ? La nature est capable d'éducation. Pourquoi ? Parce qu'elle est une nature appelée à être une personne. C'est la différence entre l'éducation et le dressage. Un animal, vous ne l'éduquez pas, vous le dressez. Il y a des gens qui éduquent en dressant. Ils éduquent mal. On dresse un animal. On dresse un chien de chasse. On dresse un chien de garde. On dresse un éléphant. J'éduque pas un éléphant, je le dresse. Alors, quelle différence y a-t-il entre le dressage et l'éducation ? C'est que l'éducation doit être tout le temps finalisée par la personne. On éduque une personne. On dresse une nature. Vous voyez ? Distinction nature-personne. Qui permet tout de suite de voir la nature, principe du mouvement. La personne, tout de suite, la finalité. Et donc, une personne, vous l'éduquez toujours par la finalité. C'est pour ça qu'actuellement, on est en train de dresser les hommes et non plus de les éduquer. On dresse, vous devez faire comme ça. Pourquoi ? Ah, cherchez pas. Vous devez faire comme ça. Ça, c'est le dressage. Ne cherchez pas. On doit respecter la forme. C'est très important de distinguer et donc le point de vue du dressage qui est d'ordre artistique. C'est un art de dresser. Et l'éducation qui implique un dressage, mais qui le dépasse par la finalité. J'éduque une personne. Je n'éduque pas une nature. Je dresse une nature et j'éduque une personne. Pour éduquer une personne, c'est toujours la finalité. Pour éduquer, je regarde la causalité formelle et efficiente. J'apprends quelqu'un à sauter. Je ne l'éduque pas. Je l'apprends à sauter. L'agilité du corps. Et dans, constamment, dans l'éducation, le dressage est impliqué dedans, et quelquefois le dressage prend tout. Quand on voit la manière dont on peut dresser les Japonais, au point de vue souplesse, au point de vue danse, au point de vue manière d'être, on dit qu'il y a beaucoup de dressage, plus que d'éducation. Alors que plus une civilisation s'empare, plus l'aspect finalité devient. Et on arrive à faire qu'on ne dresse plus du tout et qu'on ne fasse que l'éducation. C'est ne regarder que la personne en oubliant la nature. Vous voyez, nature-personne, vous le retrouvez dans ce côté dressage, éducation. Et ça, c'est très important. De comprendre qu'on dresse la nature, on éduque la personne. Alors, par le fait même, si vous ne regardez que la personne, oubliant complètement la nature, vous allez oublier tout le point de vue de la détermination propre à la nature. Et vous ne regarderez que la finalité. Donc, oubliant le point de vue de la nature, vous oubliez tout ce qui est de l'ordre du dressage. Vous oubliez tout ce qui est déterminé et que vous ne changerez pas. Aujourd'hui, on voudrait que la personne prenne tout. Alors que, de fait, il y a la nature au point de départ qui est très forte. Elle nous a donné un corps et une âme. L'âme est éduquée, le corps est dressé. C'est très curieux. Et quand vous oubliez les deux, alors ça fait une confusion. C'est la réponse à cette question. Pourquoi la personne a-t-elle besoin de la stabilité de la nature ? La personne, pour être éduquée, a besoin de savoir qu'il y a des déterminations qui ont été données naturellement et qu'on ne peut pas enlever. Je suis déterminé à être un homme. Je suis déterminé à être une femme. C'est une détermination de la nature, celle-là. Et cette détermination, c'est la nature, c'est pas la personne. Mais la personne, développer la personne d'une femme, d'une jeune fille, ou d'être la personne d'un jeune homme, tient compte de leur nature. Si on ne tient plus compte de leur nature, on va faire des choses erronées. On confond dressage et éducation. Et c'est très intéressant de voir combien d'éducateurs confondent dressage et éducation. Vous avez des méthodes d'éducation sans du tout tenir compte de la nature. Et vous avez au contraire d'autres points de vue de l'éducation qui n'en regardent que la nature. Et ça, c'est la complexité dans laquelle nous nous trouvons. Nature, personne. Et ces deux points de vue irréductibles qui, tout de suite, dès le point de départ, font que je dois respecter la nature et je dois prolonger cette nature pour qu'elle devienne une personne. Mais je la prolonge. La personne n'est pas le point de départ, c'est la nature. C'est le reste. Il suffit de respecter le tout petit enfant. Il n'est pas une personne, il est un tout petit enfant. Il est une nature. Et sa nature est déjà parfaitement déterminée.